Popol Talks, le podcast d'entretien de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. Et c'est parti. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol Talks. Et pour ce nouvel épisode, je suis très, très heureuse d'inviter quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Je commence comme ça. Ça fait toujours plaisir. Non, c'est vrai. On va faire une petite devinette. Si elle devait choisir une couleur, laquelle serait-elle? Quelle couleur choisirais-tu sur ce plateau de couleurs?
Rouge.
Le rouge. Pas mal. C'est bien pour une introduction.
C'est super bien. Quelles étaient les autres options? On ne sait pas, on ne saura jamais.
On ne saura jamais puisque tu as choisi le rouge, hélas. Eh bien oui, qui est cet invité mystère? Fiona Schmidt. Je ne pouvais plus me retenir. Bonsoir, bonjour, en fonction de à quel moment de la journée ou du soir vous nous écoutez, ou de la nuit, bonne nuit. Fiona Schmidt, donc l'invité de ce nouvel épisode de Popol Talks pour parler, ma foi, de ta vie, de ton œuvre. On commence par là.
Et des œuvres à venir.
Et des œuvres à venir. Oh là là, elle va tout nous raconter aujourd'hui. Chère Fiona, qui es-tu?
Qui suis-je? C'est toujours une question, c'est une question assez vertigineuse, je trouve, qui suis-je? Parce qu'on répond toujours de manière professionnelle, tu vois, qui suis-je? Enfin, voilà, qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est bizarre comme question, en fait, quand on y pense. Oh là là, cette conversation...
Non, mais c'est vrai, comme s'il y avait que ça qui nous définissait.
De manière très philosophique, mais qui suis-je?
C'est pour ça que je te propose de te définir comme tu l'entends.
Voilà.
Alors, ouais, je raconterai après ce que tu fais, quand même.
écoute, qui suis-je? Je professionnellement, en tout cas, je me définis comme journaliste, comme militante féministe et surtout comme autrice, puisque j'écris des livres et c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce que je fais, ce qui absorbe le plus clair de mes journées.
Bon, on peut quand même le dire, on a quelqu'un en commun, quelqu'une en commun.
On a quelqu'une en commun, ah, on la salue.
On la salue
et on l'embrasse.
On l'embrasse bien fort. Camille Dumas, notre éditrice adorée, petit big up à cette fabuleuse personne qui nous permet de livrer sur papier, mot après mot, page après page, ce qu'il y a sur nos petits cœurs.
Goutte de sueur.
Parlons de ton travail, tant qu'on y est. Puisqu'effectivement, tu t'introduisais en disant que tu es journaliste, autrice, militante féministe. Comment ça s'imbrique tout ça?
Comment ça s'imbrique? Alors, ça nécessite de... Mon vrai travail dans la vie, c'est d'être journaliste. Je le suis de moins en moins aujourd'hui puisque je suis... J'écris sur un format plus long désormais et j'écris aussi de plus en plus sur Instagram, donc je suis assez active sur les réseaux sociaux. Et en réalité, c'est marrant parce que j'ai commencé ma carrière dans la presse féminine. J'ai travaillé dans la presse féminine pendant 12 ans. Et en fait, les réseaux sociaux sur lesquels je suis toujours très active ont servi de passerelle entre ma vie d'avant, donc dans la presse féminine en tant que journaliste, et ma vie d'autrice féministe. Et c'est parce que j'estimais que je n'étais pas assez légitime, j'avais un vrai problème d'imposture, c'est-à-dire que mon sentiment d'imposture mériterait son propre code postal, tu vois.
Parce qu'il a qui serait près, lequel On pourrait s'amuser, imaginer des choses.
On pourrait s'amuser, non, mais il a la taille de la Corse, tu vois.
Ouais. Du nord et du sud
Réunis, okay. Absolument. Ouais, absolument, avec la barrière de corail autour, si tant est qu'il y ait une barrière de corail autour de la Corse. I'm not sure, but anyway. Et parce que j'avais justement, parce que je ne me sentais pas légitime à l'époque pour évoquer des problématiques féministes qui commençaient à m'intéresser de plus en plus, j'ai commencé à en parler sur les réseaux, c'est-à-dire à écrire et à considérer Instagram comme vraiment un support médiatique à part entière. Donc j'ai commencé à écrire mes textes, qui sont de plus en plus longs, sur Instagram et pas sur un support de presse. Et donc c'est vraiment... Oui, ça a été très important. Les réseaux sociaux sont toujours très importants parce que ça me permet de diffuser à une audience la plus large possible et la plus hétéroclite possible mon avis sur le monde, n'est-ce pas ? Non, mais de partager mes vues sur l'actualité principalement. Mais ça a été très important dans mon cheminement de journaliste, vraiment.
Est-ce que ça veut dire que dans ta vie antérieure, si on peut la définir ainsi, donc quand tu bossais en tant que journaliste dans la presse féminine, est-ce que tu n'avais pas le sentiment d'avoir l'espace nécessaire pour développer justement des pensées plus engagées, plus féministes ?
Non, c'est surtout que ces pensées ne me traversaient pas l'esprit. C'est-à-dire que je suis devenue féministe sur le tard, j'avais 30 ans, 33 ans bien sonné, j'avais l'âge du Christ. Voilà.
Ah ouais.
Autant le dire.
Quand il est mort, parce que le Christ est éternel, n'est-ce pas ?
Quand il est mort. J'en sais rien. Voilà. Quand il est mort. Je suis devenue féministe, je me suis définie comme féministe vraiment sur le tard. Ça a coïncidé avec la publication d'un livre qui a beaucoup compté dans mon cheminement, qui s'appelle Bad Feminist de Roxane Gay, que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, qui est une femme qui m'a beaucoup et qui continue de m'inspirer. Et avant ça, j'étais l'archétype de la féministe mais, tu vois. C'est-à-dire que j'étais évidemment pas anti-féministe puisque ça n'avait aucun sens, tu vois. Enfin, le contraire de féministe, c'est misogyne quand même. Donc, j'étais évidemment pas misogyne.
T'étais féministe, mais pas trop.
Mais j'étais féministe, mais je me rase, mais j'aime bien quand on me tient la porte. Enfin, ce genre de conneries, tu vois. Enfin, vraiment l'archétype de la féministe en mousse, voilà. Et puis je considérais que la plupart des combats avaient été menés et puis que ma foi on s'en tirait pas si mal parce que regarde les femmes en Afghanistan, enfin tu vois, j'étais vraiment voilà. Donc j'étais pas déconstruite du tout. Et puis pourquoi j'étais partie sur ce chemin ? Je suis
au
milieu du chemin.
De justement de ton parcours et de comment tu es arrivée à écrire des livres.
Ah oui. Donc c'est pas que je manquais d'espace dans la presse féminine pour m'intéresser pour m'intéresser à des problématiques sociétales. C'est surtout que ces problématiques sociétales ont commencé à m'intéresser de plus en plus. Et que effectivement dans la presse féminine, il y avait pas d'espace, en tout cas à l'époque, pour que je m'exprime à ces sujets. Mais c'est surtout mon sentiment d'imposture qui a fait que je ne me sentais pas légitime parce que je n'avais pas lu tout Simone de Beauvoir dans le texte, tout Audre Lorde, j'avais pas fait des études de genre, etc. Donc je comme beaucoup de femmes je pense que c'est quand même assez féminin d'imaginer qu'on doit être absolument parfaite pour briguer tel ou tel poste ou telle activité, tu vois, ou mener telle ou telle activité. Moi, j'étais persuadée qu'il fallait vraiment...
Une certaine légitimité pour être féministe.
Oui, et puis il fallait une certaine culture, il fallait avoir lu un certain quintal de livres, hectare de livres, je ne sais pas, de spécialistes, tu vois.
Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi quand j'ai commencé à militer, à me rapprocher des réseaux militants. J'avais le sentiment qu'il y avait une certaine exigence quand même, effectivement, par rapport à ça.
Oui.
Tu peux être un peu intimidant pour des personnes comme nous, qui arrivent au féminisme peut-être un peu tard, disons, avec cette exigence intellectuelle. C'est très présent aussi dans les milieux d'extrême-gauche.
Oui,
il y a
c'est vrai.
Beaucoup d'exigences, tu vois, genre, si t'as pas lu une telle ou un tel, c'est un peu ce que t'as ressenti aussi.
Absolument, et puis en plus, j'avais le stigmate presse féminine quand même.
Oui, c'est vrai.
Donc il y a ça aussi, hein, c'est-à-dire que... j'étais à la limite d'être cérébrée, tu vois, en venant de la presse féminine.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Et donc, du coup, ce virage s'opère avec la publication de ton premier ouvrage ?
Non, le virage, il s'est opéré avant.
Avant.
Il s'est vraiment opéré avant. Il a coïncidé avec le décès de ma grand-mère, dont je parle dans Vieille Peau. qui m'a fait prendre conscience de tout un tas de choses, qui est décédée il y a presque 10 ans maintenant, donc ça fait quand même un petit paquet d'années. Donc devinez mon âge. Donc, je le dis en vieille peau, c'est absolument pas de c'est pas, j'ai 42 ans, voilà, sachez-le. j'en fais pas mystère. Et donc ce qui est le fait que je me considère comme féministe et que je me revendique comme telle a vraiment coïncidé avec le décès de ma grand-mère qui m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de réalités personnelles et qui a coïncidé aussi avec la lecture de Bad Feminist, donc le livre de Roxane Gay, grâce auquel j'ai compris que je pouvais me dire féministe et me revendiquer féministe et aborder des problématiques dont je pensais qu'elles n'étaient pas les miennes, alors qu'en tant que femme, ce sont les miennes évidemment, et je pouvais les aborder avec toutes mes contradictions et que j'avais droit à ces... j'avais droit à être contradictoire, j'avais droit d'être humaine en fait, et que le féminisme n'était pas incompatible avec l'imperfection, bien au contraire, puisque être féministe c'est un cheminement, exactement comme le fait ça implique qu'on se trompe aussi beaucoup,
qu'on se challenge soi-même, voilà. Ouais, tout à
pour
fait,
adopter ouais. un langage de start-up.
Exactement, dans notre belle start-up nation.
Bien sûr, voilà. Non, mais c'était un cheminement permanent. Donc, on avait le droit justement de se tromper, de faire des erreurs, de changer d'avis.
Mais c'est vrai que la publication de Bad Feminist, pour ça, a été assez révolutionnaire.
Ça a été vraiment... je l'ai lu en 2015. Ouais. Donc, ça va faire 10 ans. Ça ne fait pas tout à fait 10 ans. Je l'ai lu en 2015. Et ça a vraiment été... ça a fait braum dans ma tête, quoi. Ça a vraiment...
Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un ouvrage qui est assez intéressant. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui pensent peut-être être de mauvais ou de mauvaises féministes, on vous conseille de lire cet ouvrage de Roxane Gay, qui est assez fabuleux, effectivement.
Et drôle, en plus.
Et drôle, en plus, tout à fait. Dès l'introduction, dès la première page, on se tape des barres. Et c'est assez remarquable. Je voulais revenir sur un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit. Enfin, un de tes ouvrages qui a fait pas mal de bruit, Lâchez-nous l'utérus. Mmh. En finir avec la charge maternelle que tu as publiée chez Hachette en 2020.
Tout début 2020.
Est-ce que tu peux revenir un peu sur le contenu de cet ouvrage, sur ta réflexion aussi à l'époque sur l'injonction à la maternité ?
Alors, ce n'est pas un livre qui traite de l'injonction à la maternité seulement. Et c'est drôle parce que c'est tout ce qu'on a retenu de ce livre. Ce qui est assez signifiant aussi. À la base, je voulais parler de mon désir de ne pas être mère, que j'ai mis du temps avant de formuler comme ça, puisqu'on parlait de non-désir d'enfant, et moi-même aussi, je parlais comme tout le monde de non-désir d'enfant, avant de me rendre compte qu'en fait, mon projet de vie était un projet de vie à part entière, c'est-à-dire qu'il relevait du désir et pas du non-désir ou d'un désir par défaut ou quoi que ce soit. Enfin, c'était juste un désir différent du désir de maternité, du désir de la plupart des femmes, de fait. Donc c'est de ça dont je voulais parler, et je voulais parler du fait que ce désir j'allais dire or, ne, quoi, le mot me manque, revient
mot, on te cherche mot. Attends, on va mettre un petit jingle pour qu'il revienne.
Non conformiste,
nous sommes à la recherche du mot.
Merci, non conformiste, voilà, je cherchais le mot. Il y en a deux même. Moi, j'ai toujours été très, très, très au clair, en tout cas en paix aussi, mais très au clair avec ce choix non conformiste, mais qui posait des problèmes à tout le monde. Voilà. Et donc, c'est parti de cette interrogation.
À tout le monde, c'était les personnes autour de toi,
notamment ? Oui, notamment. Et puis que c'était un choix qui, de fait, te marginalise. Enfin, qui m'a toujours, moi, marginalisée. Enfin, on parle des années 2000. Aujourd'hui, on me lâche un peu l'utérus. C'est-à-dire qu'à passer 42 ans, il y a quand même... Non, mais les gens...
Enfin.
Ça ne veut pas dire qu'on m'a complètement lâché l'utérus. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui parlent à mes ovaires, tu sais, comme si c'était Rocky. Non, mais tu peux encore. C'est pas la fin. Hein, tu peux y aller. Mais bien sûr, tu peux. S'il est encore temps.
Macron t'a parlé début janvier. On va y revenir.
Macron m'a parlé, mais je passais sous un tunnel, malheureusement. Donc, mais bon, disons l'injonction à la maternité, je suis un peu passée, on est passé un peu à une étape supérieure, c'est-à-dire que là, je suis un peu dans un sas où on me fout à peu près la paix, et qui précède le moment où on va me demander, on va me dire, ah, mais quand même, tu regrettes pas, tu vois.
Oui, ça va, bien, ça va pas, voilà, tarder, ouais, du coup.
Ça va pas
encore
tarder.
Encore quelques années,
ouais,
mais...
Encore, ouais. Oui, d'ici 45 ans, je pense. Là, je suis dans une période où on me fout la paix avec,
ouais,
ça.
Ouais, t'as 3 ans de répit, quoi.
Exactement, c'est-à-dire qu'on part du principe, la plupart des gens partent du principe que je suis mère, puisque je coche par ailleurs toutes les cases du bingo procréatif. Hein. Je suis avec un homme qui est lui-même père de famille, qui est conjugalement compétent, qui voulait qu'on ait des enfants... je suis privilégiée à tout point de vue. Enfin, je n'ai pas de bonne raison de ne pas avoir partagé mes gènes exceptionnels avec.
C'est vrai que ça, c'est dommage quand,
ouais,
même.
Ouais, c'est dommage. Bah, j'espère que la planète s'en remettra, mais je pense.
Tu nous laisses des livres.
C'est ça. C'est ça. Et un chat qui est immortel. Oh. J'ai décidé que mon chat était immortel.
Bref. Et des posts Instagram.
Et des posts Instagram, exactement. Et voilà, donc au départ, c'était vraiment un livre qui devait traiter de ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas parler du choix de ne pas être mère, donc de non-maternité, sans parler aussi, enfin, de non-maternité choisie, sans parler aussi de non-maternité subie. Parce que quand même, en France, 14% des femmes n'ont pas d'enfants. Donc, n'en déplaise à Macron, c'est un chiffre qui est très stable depuis des décennies, hein, donc qu'il se calme, s'il m'entend. Calme-toi. Voilà, et seulement 5%, procèdent du choix. Donc, ça, quand même, la plupart des personnes, des femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est parce que cette nulliparité, pardon, est subie. Et voilà, et puis je me suis rendu compte aussi au fur et à mesure de mes recherches, au fur et à mesure de mes entretiens que j'ai menés notamment sur Instagram. Là aussi, je dis que c'est très important parce que j'avais créé un compte à l'époque, donc en 2018-2019, qui s'appelait Bordel de mer, sur lequel j'invitais toutes les femmes et toutes les femmes cis et trans à évoquer. Pas que les femmes d'ailleurs, les hommes étaient bienvenus aussi, à évoquer leur problématiques concernant la maternité ou la non-maternité. Et c'est drôle parce que le compte a cartonné. J'ai eu énormément de témoignages, et pas seulement donc de femmes qui n'avaient pas d'enfants, et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas parler de non-maternité, qu'elle soit subie ou choisie, sans parler aussi de maternité et des injonctions qui pesaient sur les mères de la grossesse, de l'annonce en fait de la grossesse jusqu'à leur mort, hein, en gros. Voilà. Et je trouvais que c'était intéressant. Donc en fait, La Chenille l'utérus, c'est un livre sur les injonctions qui pèsent sur les femmes en général, qu'elles souhaitent être mère ou pas, qu'elles le soient ou pas, ou qu'elles l'étaient ou pas, bref. Et c'est drôle parce que ça comporte 8 chapitres et le seul qui a vraiment retenu l'attention des médias et de tout le monde, et c'est la raison pour laquelle ce livre continue de vivre et qu'il est connu et que j'ai été beaucoup interviewée à ce sujet, c'est le chapitre dans lequel j'aborde mon choix de ne pas avoir d'enfant. Donc c'est un chapitre sur les 8 qui sont extrêmement documentés, extrêmement détaillés, il y a plein de témoignages, etc. Mais c'est le seul sur lequel... En fait, c'est inconcevable, apparemment, qu'on puisse interviewer une nullipare sur la maternité, sur les problématiques politiques afférentes à la maternité. Apparemment, c'est impossible.
Mais c'est vrai, moi, je m'étais fait une réflexion il y a quelques années en me disant, on demande toujours aux femmes qui n'ont pas d'enfants pourquoi elles n'en ont pas eu. Mm. Mais on ne demandera jamais aux femmes qui en ont pourquoi elles en ont.
Non, et on n'invitera jamais une personne qui n'a pas d'enfant à parler de maternité ou de problématiques de maternité, y compris quand elle a bossé sur le sujet, comme c'est mon cas. Alors que ce sont systématiquement des personnes qui ont des enfants qui font des papiers sur les femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Systématiquement. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on en parle toujours aussi mal. Hein.
Ah ouais, bien sûr, c'est intéressant. C'est... Entre le moment où tu as écrit donc, cet ouvrage qui a été publié, comme tu le disais tout à l'heure, début 2020, donc qui a nécessairement dû être écrit les années précédentes, les mois précédents en tout cas.
2018-2019, oui.
Voilà, on a 5 ans. qui sont écoulés, plus ou moins, à peu près. Enfin, pas tout à fait. 4 ans.
Ah oui, non, mais si, 5 ans. Parce
ouais, 4-5 ouais. ans, on est d'accord. Oui, désolée, je suis nulle en maths. Je suis nulle en plein d'autres trucs, mais surtout en maths et en calcul mental. Bon, bref, on y est presque.
5 ans.
4-5 ans. Donc, toi, tu travailles sur ce thème. Tu le gardes, bien entendu, à l'esprit, puisque c'est un thème qui tient à cœur, sur lequel tu as beaucoup travaillé.
Absolument.
Et aujourd'hui, tu as un président de la République qui te parle de réarmement démographique avec un parti politique qui s'appelle le Rassemblement National et qui est l'un des principaux partis d'opposition aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui a déposé une proposition de loi en septembre 2022, l'une de ses premières, pour demander et faire en sorte que la France soit, que 2024 soit l'année de la natalité française. Mmh. Ça inspire quoi tout ça ?
Beaucoup de peur, d'autant plus que là, Gérard Larcher vient de se prononcer contre l'inscription du droit à l'IVG dans la liberté d'avorter dans la Constitution, ce qui signifie en fait qu'il n'a pas envie que le droit de l'avortement soit inscrit dans la Constitution. Et le fait qu'il considère que cette liberté ou ce droit est un droit sociétal, c'est ce qu'il a dit, hein. Enfin, la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociétal et sociaux. Le fait qu'il considère...
Je fais juste une toute petite insertion ici de constitutionnaliste. Insert, pardon.
N'hésite pas à insérer, Léa.
J'insère, parce que c'est important. Moi, il se trouve que j'ai étudié le droit constitutionnel, et il se trouve que le droit constitutionnel, ce n'est pas seulement les articles de la Constitution qui consacrent effectivement la question de la répartition des pouvoirs et qui organisent la répartition des pouvoirs au sein de notre République, il y a aussi tout un pan de droits, en fait, qui sont garantis par ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. C'est du popular planning, hein, que je fais un peu. Le bloc de constitutionnalité qui inclut notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les principes les plus importants, on appelle ça les PLFR, je crois, ouais, bref, peu importe, j'ai oublié l'acronyme, mais qui sont des principes qui ont été reconnus au fur et à mesure par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et qui consacrent des droits civiques et politiques. Donc en fait, Gérard Larcher nous dit de la merde.
Je l'ai dit beaucoup moins bien.
Mais il est président du Sénat, donc c'est dramatique. Et il ne sait pas à quoi sert la Constitution. Voilà, je voulais juste faire cette insertion.
Et considérer qu'il s'agit d'un droit sociétal et pas un droit fondamental de l'être humain, c'est assez grave, surtout quand on met en perspective ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe. Où les droits de reproductifs sont quand même, c'est au-delà de menacés. Enfin, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus, hein, dans la moitié des États américains, et ils existent de moins en moins en Hongrie, en Italie ou en Pologne, et en Italie où Giorgia Meloni mène quand même des campagnes pronatalistes qui sont quand même hardcore vénères, sachant qu'en plus, il est beaucoup plus difficile, encore plus difficile pour les femmes d'avorter en Italie. Qu'en France, parce que le nombre de médecins qui posent leur clause de conscience est hallucinant. C'est-à-dire que 8 sur 10 ou un truc comme ça, enfin, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est délirant, quoi. C'est-à-dire que pour...
Ils y recourent énormément, effectivement, voilà. Ouais, donc ça, on est effectivement à un tournant politique qui est très inquiétant. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé, toi ?
Tu veux dire en regardant dans mon marc de café,
ouais, rétrospectivement, non.
Féministe, dans mon marc de café féministe, je sens que
rétrospectivement,
ça sent le roussi.
En écrivant cet ouvrage.
Non, très sincèrement, je pensais qu'on allait plutôt vers un progrès des droits sociaux que vers une régression. Moi, je considère que ce qui est en train de se passer est vraiment une régression. Je n'avais pas anticipé que Macron allait parler de réarmement démographique ou que la presse allait. J'avais pas anticipé non plus que une question allait émerger dans l'espace public dont on parle très mal, c'est ce rapport de la natalité avec l'écologie. Que j'aborde pas dans mon livre parce que c'était beaucoup moins... En fait, c'est une question qui a émergé après le Covid, surtout. Et de plus en plus, là, avec les catastrophes climatiques qu'on connaît. Mais ce qui est dingue, parce qu'en fait, en 2019, c'est quand même hier. Mais en fait, en temps aujourd'hui, enfin, c'est la préhistoire.
Ressenti, c'est dingue, hein. 2056.
Mais c'est exactement ça, c'est dingue. Et cette question-là n'était pas tellement posée dans cette... Et je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment face à une injonction contradictoire, c'est-à-dire que les femmes sont... incitées à faire des enfants, donc parce que sinon elles sont accusées de tuer l'humanité, hein, de mettre fin à l'humanité, et en même temps celles qui en font sont accusées de bousiller la planète, voilà. Donc
c'est Françoise Daubonne qui parlait déjà de ça dans les années 70 et à qui on n'avait pas hésité, enfin pas moi évidemment puisque je n'étais pas encore née.
Tu n'étais même pas une lueur dans le regard de tes parents.
Même pas un projet qui on l'a reproché effectivement puisqu'elle avait des enfants, mais elle disait à tout le monde qu'il fallait arrêter d'en faire pour le bien-être de la planète, donc c'est assez intéressant de voir que ce débat revient.
Ouais.
Et que ça crée potentiellement une nouvelle injonction qui pèse sur les femmes finalement.
Oui, et puis ça crée aussi une lente le jingle, je retrouve plus mon mode de nouveau. Une scission ? Non, pas vrai. entre les
à la
femmes,
recherche du mot perdu.
Oui, à la recherche du mot perdu. C'est encore un clash, un rapport de non, je sais, enfin le terme est un peu trop énergie 12, mais tu vois ce que je veux dire, on n'est pas dans les Marseillais, mais
oh là là.
Mais tu vois un truc un rapport de rivalité entre les femmes, entre celles qui veulent des enfants et celles qui n'en veulent pas.
Roxane Gay, bad féministe,
exactement,
quoi.
Exactement.
On y revient à la base. Mais sujet intéressant et finalement fort d'actualité, hein, avec une résonance contemporaine qui était un peu inattendue lorsque tu écrivais encore les pages de cet ouvrage. Mais moi, je voulais revenir quand même sur ton dernier ouvrage, enfin celui qui vient d'être, enfin qui a été publié, parce que j'ai ouï dire que bon, bref, tu nous parleras peut-être de tes projets, on sait jamais.
Peut-être.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Qu'on va peut-être pas t'arrêter tout de suite, et tant mieux d'ailleurs. Non, je voulais parler de cet ouvrage que tu as publié l'an dernier, mm-hmm. qui s'appelle Vieille peau, qui est un ouvrage qui, moi, m'a beaucoup touchée, puisque tu parles de la double inégalité qui pèse sur les femmes, du fait d'être femme et de finalement vieillir, mais pas que de vieillir, mais aussi de s'occuper de tous ceux qui vieillissent autour de nous. Tu dis à un moment donné, et j'ai trouvé ça très fort, finalement, et notamment tu parles beaucoup de fin de vie, c'est un métier qui repose sur les femmes et qui concerne aussi beaucoup les femmes, puisque les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais en moins bonne santé. Et tu montres aussi que la majeure partie des résidentes en EHPAD sont des résidentes, puisqu'elles sont 8 sur 10. Mmh. 8 résidentes sur 10 sont des femmes, et que la majeure partie des aides-soignantes sont des aides-soignanteux, à hauteur de plus de 90% de mémoire. Donc tu montres aussi à quel point c'est à la fois une question de société, mais au-delà de ça, un enjeu de politique publique.
Absolument, c'est vraiment une question féministe à tout point de vue, puisque, comme tu l'as dit, l'écrasante majorité des femmes vieilles, les plus vieilles, donc les plus vulnérables, sont des femmes, et la majorité des personnes qui s'en occupent sont aussi des femmes, et qui sont souvent en situation de précarité, de vulnérabilité, soit parce qu'elles sont précaires économiquement, soit parce que les aidantes, qui sont elles aussi très majoritairement des femmes, et c'est à ces femmes aidantes qu'incombe le plus gros et le plus lourd des tâches relevant de l'aide, sont elles-mêmes, la plupart d'entre elles, enfin la plupart d'entre elles, c'est un peu plus de 50%, il me semble, sont retraitées, donc déjà âgées, donc potentiellement vulnérables.
J'ai d'ailleurs vu récemment un chiffre qui m'a glacé le sang. La majeure partie des femmes qui s'occupent de leur conjoint en situation de dépendance meurt dans les 3 années qui suivent la fin de la dépendance.
Oui, absolument. C'est un chiffre qui est glaçant, que je cite. Il y avait un chiffre qui était glaçant aussi sur les époux aidants versus les épouses aidantes. Et le fait qu'il y avait beaucoup de féminicides, en fait, parmi de féminicides sur des femmes qui étaient en situation de vulnérabilité ou de grande dépendance et qui n'étaient pas considérées comme des féminicides mais plutôt des actes de charité.
Oui, je crois qu'il y a un terme qui avait été colporté dans la presse à ce moment-là, qui était, je crois, l'expression qui avait été utilisée, meurtre altruiste de mémoire.
Oui, voilà, exactement. Et ça concerne quand même les femmes de plus de 70 ans représentent 20% des féminicides. C'est des féminicides dont on parle absolument jamais et qui ne sont pas considérés comme des féminicides parce que souvent, et d'autant plus quand ce sont des femmes qui sont malades et auxquelles leur époux, leur conjoint, souvent retire la vie, mais c'est présenté effectivement comme un acte altruiste pour leur bien. Alors que dans le cas inverse, donc mon père est dépendant, il a perdu autonomie et dépendance, et je ne pense pas que ma mère ait jamais pensé à le buter. Et c'est le cas de la plupart des femmes qui sont aidantes. C'est-à-dire que, en fait, les hommes sont assez vite. Alors, évidemment, je généralise et ce n'est pas tous les hommes, etc. Mais on le voit dans les études qui sont souvent débordés par le fait de prendre soin, ce qui, naturellement, n'est pas leur travail, n'est pas leur éducation. Et donc, la solution qu'ils ont trouvée, un certain nombre d'entre eux, en tout cas, c'est de buter leur femme.
Et souvent, ce qu'on constate aussi dans ce type de féminicide, c'est que l'homme se donne la mort ensuite.
Absolument. Donc, en plus, on ne peut pas avoir... il n'y a pas de justice qui peut être faite pour les enfants, pour les descendants. Effectivement.
Ouais, c'est effectivement un angle mort. Hein,
oui, tu disais, ça, on n'en parle pas.
Féminisme, on en parle peu.
Absolument. Et d'autant plus que les victimes, les statistiques concernant les victimes de violences conjugales et de violences par ailleurs sexistes et sexuelles
s'arrêtent à
70 ans, ce qui est quand même... voilà.
Mais pas les féminicides. C'est la seule statistique qu'on arrive à avoir. Et juste pour compléter, mais tu en parles aussi dans ton ouvrage sur cette question-là, il faut savoir que les femmes de plus de 70 ans, les féminicides des femmes de plus de 70 ans représentent la deuxième catégorie la plus importante.
Absolument.
En termes de chiffres et de meurtres de toutes les femmes qui sont tuées chaque année. Donc c'est après les 20-34 ans de mémoire. Donc c'est effectivement assez inquiétant. Vieille peau, tu l'as rédigé aussi un moment un peu compliqué de ta vie. Tu en parles parfois de comment...
Il a été très, très, très difficile à démouler de mon crâne, ce livre.
On en a parlé un peu en off, et donc je me permets de rebondir.
Bien sûr, parce qu'à la base, je n'avais pas du tout prévu que ce soit un livre aussi intime où je parle autant de moi. Je comptais faire un livre un peu choral, comme je l'avais fait pour La chez nous l'utérus. Je voulais faire un livre qui soit émaillé de tout un tas de témoignages dans lequel des femmes raconteraient leur rapport au vieillissement et à l'âge et à la vieillesse et à la vulnérabilité, mais des femmes très, très différentes les unes des autres et de tous les âges. Et donc j'avais vraiment envie de faire un livre choral, et puis j'ai complètement changé de braquet quand j'ai eu... en fait, j'ai eu 40 ans. Donc, ça a coïncidé. L'écriture du livre a coïncidé avec mes 40 ans. Mais surtout, mon père a eu un AVC qu'il a laissé lourdement handicapé. Donc, il a perdu son autonomie et sa dépendance. Et en fait, écrire un livre sur le vieillissement quand on a eu 40 ans et que son père de 70 ans, parce qu'il est jeune, mon père, enfin, il était jeune quand il a eu son AVC, a vieilli de 25 ans en un mois. C'était un peu en termes de, tu vois, c'était un peu violent. Et ça m'a fait complètement revoir mes perspectives sur les problématiques de l'âge. Et donc, j'ai décidé de faire un livre beaucoup plus intime qui fait des allers-retours entre mon enfance, où se trouvent les racines, les racines du mécanisme de l'agisme, et mon présent, évidemment, parce que c'est hautement symbolique. Le cap de la quarantaine pour une femme, c'est hautement symbolique. Enfin, ça, on entre dans le sas qui précède la mort sociale, hein. Bah, c'est ce qu'on appelle une ménopause sociale, hein. C'est la sociologue Cécile Charlap qui l'appelle la ménopause sociale. Donc, c'est-à-dire, c'est le moment où on est censé être mère, mais on n'est plus censé le devenir. Et du coup, c'est devenu un livre extrêmement intime, effectivement, où je me balade dans mon histoire, dans ma propre histoire, dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma vie de jeune adulte, aujourd'hui d'adulte, et puis où je me projette vers ce qui sera, Inch'Allah, mon avenir, quoi. Enfin, mon avenir de vieille femme, de vieille femme, et puis peut-être de très vieille femme.
Tu disais que c'était un sujet éminemment féministe, hein, bien entendu, et ça, on le ressent très bien dans ton ouvrage. Mais il y a aussi un autre élément qu'on ressent et qui ressort assez clairement de ton ouvrage, c'est le fait que ce soit, je le disais en introduction, que ce soit un sujet politique, éminemment politique.
Yes, absolument. Bah, à tout point de vue, c'est-à-dire que là, je venais d'évoquer la fin de vie. Bah, ça, par exemple. C'est quand même, c'est-à-dire que pour moi, je considère, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup abordé. Je l'effleure dans la dernière partie du livre, mais la question de la fin de vie qui est très en ce moment qui est dans l'actualité depuis un petit moment. Pour moi, c'est une question éminemment féministe qui reste encore complètement sous les radars. Enfin, je sais pas si c'était à ça que tu te référais, mais par exemple la fin de vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer, à mon sens, on ne peut pas considérer la liberté de disposer de son corps et de son existence avec l'IVG sans considérer aussi l'autre versant qui est l'IVV, l'interruption volontaire de vieillesse, disons, qui relève de la même logique pour moi.
Et qui est actuellement débattu d'ailleurs, c'est, ouais. C'est quelque chose
ouais.
qui
revient souvent sous
qui
le,
revient
sur le...
souvent. Le Parlement est en train de travailler sur un projet de loi. Est-ce que tu as regardé un peu ces questions-là?
Alors,
est-ce que tu suis?
J'ai suivi de mi-près, on va dire. Voilà. J'ai pas suivi. Là, j'ai suivi de la fin de. Ça fait presque un an maintenant. La fin de la Convention citoyenne et 70% des participants qui se déclaraient en faveur d'une aide active à mourir. Mais depuis, je sais que le chantier est ouvert, mais ça fait un moment que le chantier est ouvert.
Ouais, bien sûr. Donc, sur le plan législatif et politique, notamment, bon, on peut s'attendre, espérons-le, à des avancées bientôt.
Oui, il serait temps. Oui, donc la loi du 2 février 2016 prévoit que toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Et en fait, quand tu vois en quoi consistent les conditions de vie aujourd'hui, notamment en EHPAD, donc on en parle, et ça aussi je le dis dans mon livre, c'est-à-dire qu'on redécouvre d'année en année de scandales dans les EHPAD, c'est-à-dire qu'il y en a quand même plusieurs par an. On redécouvre que la fin de vie aujourd'hui, pour encore une fois une majorité de femmes, puisqu'il s'agit d'une majorité de femmes, est absolument indigne. Et alors, en 20 ans, donc du fait du vieillissement de la population aussi, bien sûr, en 20 ans, le nombre d'unités de soins palliatifs a été multiplié par 3. Pourtant, j'ai appris que 26 départements ne disposent pas de ces unités. Et j'ai appris aussi. Donc, en suivant cette affaire, parce que malgré tout, je m'y intéresse, seulement 20% peuvent, peuvent y recourir de manière technique. C'est-à-dire que seulement 20%. Et donc, dans ces cas-là, c'est vrai que j'ai du mal à admettre les réticences qui s'opposent à une fin de vie digne et choisie, quand elle est évidemment choisie et quand on est en capacité de la choisir. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre les réticences. Vraiment. Vraiment, c'est quelque chose qui me met assez en colère, en fait.
Ouais, je pense que les débats au Parlement vont être assez intéressants à suivre.
Enfin, c'est vrai que moi, j'aimerais vraiment choisir la façon dont... Enfin, je trouve que c'est un luxe aussi. Et ça devrait être normal de choisir la façon dont on meurt, quoi. Si on le souhaite, en tout cas. Si on le souhaite, on devrait pouvoir disposer
de ce choix-là.
De ce choix et du droit de mourir dignement de la façon dont on le souhaite.
Oui, c'est sûr.
À mon sens.
Et que ce soit, bien entendu, accessible à toutes et à tous.
Évidemment. Évidemment.
Et c'est en ça aussi que c'est un sujet qui est éminemment politique, puisque les questions d'inégalité face au vieillissement, et puis si on étend les choses à la fin de vie
exactement,
et à la mort,
exactement.
Sont très présentes et dépendent de choix politiques.
Évidemment, évidemment. Bah, exactement, comme la PMA, comme absolument tout. Mais c'est-à-dire que là, je fais un parallèle avec la PMA parce que c'est la naissance et donc la mort, et tu vois, c'est un truc très métaphysique, etc. Mais quand tu vois qu'effectivement, ce sont les privilégiés aujourd'hui qui peuvent mettre fin à leur vie de manière digne en allant en Suisse ou en Belgique pour mettre fin à leurs jours de manière encadrée, et voilà, bah c'est effectivement très injuste. Et on voudrait comme la PMA qui est ouverte à presque toutes, que ce soit un sujet qui prenne en compte ce paramètre, oui.
C'est clair. Du coup, ça me fait une petite transition toute trouvée pour cette dernière partie de notre entretien, parce que c'est la fin de l'entretien, on parle de la mort, donc du coup, bam, je balance la fin.
Ah bah voilà, ça y est, voilà, oui.
Non, je voulais savoir quel était ton rapport à la politique, Fiona.
Mon rapport à la politique, moi je viens d'une... je viens pas du tout d'un milieu politisé, pas du tout, c'est-à-dire que mes parents étaient loin d'être des sans-culottes. Au sens révolutionnaire du terme, hein. Ils portaient des slips. Ils ont toujours porté des slips, ils continuent d'ailleurs. C'est drôle parce qu'ils se sont toujours investis beaucoup pour les autres. Enfin, mon père qui est catho mais sympa. Tu vois, la gauche catho sociale, il a toujours été très investi dans sa paroisse. Enfin, il est très bon. Ma mère qui est athée. Aussi, c'est des gens qui se sont toujours beaucoup investis pour les autres, mais pas dans un cadre, plutôt dans un cadre associatif et pas dans un cadre politique. Donc, et par ailleurs, le fait d'avoir longtemps été très privilégié, donc d'avoir travaillé dans la presse féminine à des postes importants, à des postes voilà, ne m'a pas conduite à déconstruire tout ce que j'avais à déconstruire et notamment pas mes privilèges, tu vois. Donc moi je me suis vraiment politisée sur le tard. Ça a coïncidé aussi. Alors évidemment, je suivais la politique mais c'était pas une question centrale dans mon existence comme ça l'est aujourd'hui.
Quel a été le fait marquant ? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir davantage, en tout cas à te sentir politisé, comme tu disais ?
Bon, je crois que le passage de Le Pen en 2002 a été quand même un truc
sursaut, ouais.
Un sursaut énorme, enfin pour beaucoup de gens. Enfin, si je ne dis pas de bêtises, c'était la première fois que je votais.
Si tu as 42 ans aujourd'hui, oui, les calculs sont bons.
Et c'est ça. Et donc, c'était la première fois que je vote. C'était probablement la première fois que je déposais un bulletin dans l'urne, tu vois, parce que il ne me semble pas avoir le souvenir d'avoir voté pour un maire ou. Enfin, bref. Et donc, c'était la première fois que je votais. Et waouh, l'extrême droite au deuxième tour, tu vois. Donc, ça a été quand même un sursaut. Quelque chose qui a quand même un déclic dans ma tête. Et puis après, c'est le fait de vraiment d'être de plus en plus investi dans la cause féministe qui m'a fait me radicaliser.
Oui, voilà. C'est sûr. J'ai ce problème aussi. Alors, je ne sais pas si c'est un problème. Je pense que c'est un avantage, dans une certaine mesure.
Oui, je pense. Le fait d'être consciente, le fait d'être aware, le fait d'être woke.
Are you woke?
Are you woke? I'm woke.
Et les personnes qui nous écoutent encore, are you awake? Non, mais c'est vrai, oui, tout à fait. C'est quand même assez important. Bon, moi, je trouve ça.
Bah, absolument, bien
important.
Sûr. Bah, c'est-à-dire que c'est très étonnant de dire qu'on n'est pas intéressé par la politique. C'est comme si on disait qu'on n'est pas intéressé par les décisions qu'on prend à notre place. Enfin, c'est très étonnant quand même. Donc.
Il y a un sondage, il y a ce qu'on appelle, je crois que ça s'appelle la 15e vague, il y a le Cevipof qui fait une étude chaque année sur l'état de la confiance en la politique des Françaises et des Français. Et les chiffres sont tombés la semaine dernière et c'est assez édifiant. De mémoire, je crois que c'est... attends, je vais retrouver le... Je retrouve le visuel que j'avais partagé avec des potes parce que j'étais vraiment mais sur le cul de voir à quel
édifiant,
point...
Et c'est édifiant, not in a good way.
Ouais, ouais, ouais. Alors, les sentiments négatifs des Françaises et des Français par rapport à la politique, les sentiments négatifs sont de 74% avec le principal sentiment qui est la méfiance.
Ouais.
Et enfin, l'intérêt porté à la politique, en France, il n'y a que 51% qui se déclarent intéressés. Contre, par exemple, 77% en Allemagne ou 66% pour toute l'Union européenne.
Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais.
Tu vois,
c'est hyper... ouais. Bah écoute, c'est hyper... je ne sais pas si c'est hyper... oui, si, c'est intéressant. C'est édifiant, effectivement. Et c'est très flippant.
Ah ouais, c'est très flippant. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, ça me semble... Enfin, moi, je fais... beaucoup le lien entre féminisme et politique et le fait d'être engagé d'un point de vue féministe nous force à nous outiller politiquement.
Ça nous oblige.
Ça nous oblige, ouais, ouais, non, ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. C'est vrai. Ça nous responsabilise en quelque sorte encore plus que de se dire il faut vraiment qu'on comprenne en fait comment les choses fonctionnent et c'est la principale proposition de Popol, évidemment. Du coup, ça me fait me poser la question que je voulais te demander aussi, pardon, la question que je voulais te poser, c'est quel est ton rapport à la politique, certes, d'une part, mais aussi quelle est ta définition du féminisme et ta vision ?
Ma définition du féminisme, ce serait de me battre pour que les femmes puissent faire des choix que moi, je ne ferais pas, forcément, tant qu'ils n'entravent pas les miens. Est-ce que c'est une définition qui te convient ? Ouais, je pense que c'est un... Ouais, ouais.
Donc, en gros, la liberté de choisir pour chacune et chacun.
Exactement. Oui, voilà, exactement. Exactement.
De sa propre destinée.
De sa propre destinée, de son propre... De
futur.
Son propre, exactement, oui. Et de son propre corps et de son propre... Oui, voilà, c'est ça. C'est se battre pour la liberté de choix, quand bien même on ne ferait pas les mêmes.
Super, merci beaucoup Fiona Schmidt.
Mais avec plaisir,
Léa Chambonfait. Un petit mot de la fin, quels sont tes projets, si tu veux bien en parler ?
Là, ça fait... Je peux pas parler du...
Tu peux pas spoil intégralement.
Non, je peux pas spoil intégralement, mais j'ai deux projets de livres en cours qui commencent à bouillonner. Qui commencent à bouillonner à gros bouillon. Voilà. Donc, j'ai très hâte de repartir dans la recherche. Moi, je suis vraiment à ras de bibliothèque. J'adore ça. Enfin, c'est-à-dire la recherche, les interviews d'experts, etc. J'adore ça. C'est-à-dire que j'aurais vraiment passé ma vie à apprendre et à faire de la recherche. J'adore ça. Donc,
eh bien, écoute, on a hâte d'en savoir davantage. Merci, Fiona. On te retrouve sur Instagram.
Absolument.
On retrouve aussi dans toutes les meilleures librairies de France ton
et
ouvrage. Et même les autres. Enfin, vos préférés. Ton ouvrage, ton dernier ouvrage, Vieille Peau, publié aux éditions Bellefond en 2023. Merci beaucoup.
Merci à toi.
À bientôt à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci de soutenir Popol. N'oubliez pas que vous pouvez faire un petit don. C'est chiant de devoir le rappeler à chaque fois, mais vraiment, on compte sur vous pour pouvoir continuer nos belles activités. À bientôt pour un nouvel épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.